Il est 7 heures.
Son nom est Chatignoux, Pierre Chatignoux, le journal.
Les Français à l'heure du choix, ouverture des bureaux de vote 8h ce matin, fermeture 18h, sauf dans les grandes villes. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, 36 millions d'électeurs pour les départager, le score s'annonce serré. Bonjour, un temps bien capricieux pour cette fête de Jeanne d'Arc au Portugal. La neige est tombée en abondance cette nuit sur la région de Porto. Chez nous, les températures sont plus douces, mais le ciel sera très nuageux sur l'ensemble du pays. Imperméable de rigueur donc pour aller voter dans un peu moins d'une heure.
Ce jour-là, j'avais mis un costume beaucoup trop épais, je crevais de chaud. Et donc, pour moi, la journée du 10 mai 81 est un mélange de l'asphyxie dans laquelle je pataugeais et de l'énorme, terrible, inouïe sidération du résultat.
François Mitterrand, un mythe français. Un socialiste à l'Élysée. Raphaël Bourgois, Somanina.
Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif.
J'étais à Paris, ça me permettait d'aller jusqu'à la rue de Solferino. À partir de 18h30, d'entendre des clameurs.
Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République.
Je rentre dans l'immeuble rue de Solferino et nous attendons 20h.
20h. 5, 4, 3, 2, 1.
François Mitterrand est élu président de la République.
Nous répétons donc, estimation C2I en Ewelbul, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République.
Je vois des femmes et des hommes qui pleurent, souvent les plus âgés.
Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République.
De là où j'étais, on entendait les quartiers populaires crier, c'est dire la clameur qui s'est élevée de la ville de Massy. Et presque aussitôt, les klaxons, les cris... De tous côtés.
Je vois aussi, au-delà des cris de joie, des inquiétudes, des interrogations. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le pays ne va pas prendre peur?
On a un peu l'impression d'une panique en réalité. Mon Dieu, nous accédions au pouvoir. Mais est-ce que nous allions savoir faire? Est-ce qu'on allait avoir la possibilité, la capacité à faire face à cette nouvelle charge?
Plein de questions qui nous envahissent à ce moment-là. Mais je vois François Mitterrand, les images, il est à Château-Chinon. Et je comprends pourquoi le slogan « La France tranquille » a été trouvé.
Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais.
Voici le joli mois de mai qui est si joli et si gai. Voici le joli mois de mai qui est si joli et si gai que toutes les fleurs prennent leur couleur. Mon aimable cœur, belle, prenez-moi pour votre serviteur.
Du 10 mai 1981, l'histoire retient que pour la première fois de la Ve République, c'est un socialiste qui accède à la présidence. L'enthousiasme est à la hauteur de l'attente des militants. 23 ans se sont écoulés sans alternance. François Mitterrand a porté les couleurs de la gauche dès 1965, lors des premières élections au suffrage universel, puis en 1974, avant enfin de faire gagner la gauche. L'homme est loin d'être un inconnu. Il a traversé le XXe siècle politique et a lui-même été traversé par les grandes oppositions qui le structurent. Collaborateur ou résistant, marxiste ou capitaliste, impérialiste ou anticolonialiste, nationaliste ou internationaliste, idéologue ou pragmatique. Celui qu'on surnommera le Sphinx navigue entre les rives énigmatiques. Et cela ne compte pas pour rien dans le mythe Mitterrand. deux septennats s'écouleront sans lever l'ambiguïté, pas même la plus essentielle. L'homme qui entre à l'Élysée en 1981 est-il un socialiste ?
Certainement pas. Disons qu'il a commencé sa carrière politique nettement à droite.
Michel Vinocq, historien.
Et très jeune, il devient même secrétaire d'État aux prisonniers, n'est-ce pas ? Il a 30 ans, donc c'est quelqu'un qui a une très grande ambition. Et à ce moment-là, il s'est fait élire aux législatives de 1946 sur une liste carrément anticommuniste, de droite, et même qui s'opposait à la constitution de la 4e République. Cette liste était soutenue par les conservateurs, et c'était dans la Nièvre. Il n'avait aucun adversaire de droite, aucune liste de droite contre lui. La liste était soutenue plus ou moins clairement par l'Église catholique, puisque dans le programme on défendait l'aide à l'école privée. Enfin bref, je passe sur les détails, c'est un homme de droite.
Pensons quand même, il était né en 1916 à Jarnac.
Philippe Short, ancien correspondant de la BBC en France.
Il était sous les jésuites, sous les prêtres catholiques, à Angoulême. Toute son carrière, la carrière de ses frères, c'était la bourgeoisie, la grande ou moyenne bourgeoisie de province. Et c'était ça sa formation. Ce qui est entré dans l'esprit jusqu'à l'âge de 20 ou 22 ans, ça reste pour toujours. Donc, fondamentalement, ça n'a jamais changé. C'était la base de la personnalité de François Mitterrand.
Mais c'est peut-être plus qu'un homme de droite, je dirais. Peut-être un opportuniste, un ambitieux, un jeune loup qui veut faire carrière. Et ma foi, cette 4e République, dont il a récuser les principes constitutionnels au départ, eh bien, il va s'en accommoder. Et tout au long de la 4e République, il va être ministre très très souvent. On a compté, je crois, 11 fois ministre, et dans des gouvernements qui ne sont pas spécialement de gauche. Alors évidemment, il a été le ministre de l'Intérieur de Pierre Mendès France, et il a été le ministre de la Justice d'un autre homme de gauche qui était Guy Mollet. Mais ce n'était pas vraiment à sa gloire, puisque le gouvernement de Guy Mollet, c'est lui qui a entraîné le pays dans la guerre d'Algérie à fond, n'est-ce pas ? Et que, dans la répression du nationalisme algérien, le ministre de la Justice, Mitterrand, a été implacable. Lorsque certains lui ont demandé clémence pour quelques nationalistes qui étaient condamnés à mort, la plupart du temps, il refusait. Claudius Petit, par exemple, qui avait été son collègue dans le parti UDSR et qu'il connaissait très bien Mitterrand, a plaidé ainsi pour un nationaliste qui disait « un pauvre type ». Et je me suis fait renvoyer par le ministre. Bon. Albert Camus a demandé aussi clémence pour certains condamnés à mort. Bon, vous voyez, une intransigeance.
Nous savions quand même que François Mitterrand avait eu un parcours, comme l'on dit.
François Hollande, ancien président socialiste de la République.
Enfin, nous ne savions pas tout de François Mitterrand, notamment dans ses engagements de jeunesse. Mais nous savions que sous la 4e République, il avait participé à des gouvernements qui n'étaient pas des gouvernements de gauche, ou que de gauche. Après, il y a ses amitiés. Moi, je les ignorais avant qu'elles n'aient été révélées. Quels étaient les services que ses amis lui avaient rendus précisément quand il était engagé dans la résistance. Pourquoi les fréquentait-il encore, peut-être pour justement se souvenir de ce qu'ils avaient pu faire, alors même que ce qu'ils avaient fait dans les fonctions qui étaient les leurs, je pense à Bousquet ou à un homme qui s'appelait Martin, étaient des fonctions tout à fait effrayantes dans l'organisation même des rafles et du Vel'd'Hiv.
Il était prisonnier de guerre et je pense que c'était à ce moment-là que ses idées ont commencé à changer. Non pas changer tout de suite, mais il avait vu que les prisonniers Patrice Pella, qui était garçon de boucher, les autres, qui étaient des gens simples, étaient beaucoup plus courageux, beaucoup plus honnêtes et honorables que les aristocrates et les grands bourgeois qui étaient avec lui dans le camp. Et ça, c'était une expérience absolument fondatrice. Après, il est resté à droite, il faut le dire. Donc ça changeait petit à petit.
Je crois que le tournant, bon, il y en a plusieurs dans sa vie, Dieu sait, il y a beaucoup de virages et de tournants, mais 58, c'est capital. 58, c'est capital parce que il devient alors véritablement l'homme de gauche qu'il restera jusqu'à la fin de sa vie. Contre De Gaulle, avec lequel il a un certain contentieux qui remonte loin, à la guerre. Bon, contre De Gaulle, contre les institutions qui établissent en France cette espèce de monarchie républicaine contre laquelle il lutte. Bon. Et je dirais, par esprit politique, il voit bien que se faire l'opposant à De Gaulle, ça paiera un jour ou l'autre. Donc avec les communistes d'un côté, avec Mendès France, il est le grand défenseur des, je dirais, de la démocratie républicaine face à De Gaulle et à ses alliés.
Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous.
Campagne présidentielle de 1965.
Vous, Françaises et Français, qui cherchez en conscience où se trouve le devoir, qui vous interrogez sur ce qu'il convient de faire pour la France le 5 décembre prochain, et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps.
En 1962, lorsque le référendum vote, par conséquent, ratifie le choix du président de la République au suffrage universel, Mitterrand a ce mot. Depuis 1962, j'ai su que je serai candidat. Il a compris que, pour revenir au pouvoir, la gauche devait utiliser les institutions de la Ve République. Ce que ne voulait pas comprendre Pierre Mendès France. Lui, Mitterrand, qui a été tout à fait hostile et qui a voté contre la constitution de la Ve République, qui en 64 écrira le coup d'État permanent contre la République gaulienne, c'est lui qui va utiliser ces institutions.
Qu'est-ce que le gaullisme ? Depuis qu'issu de l'insurrection, il s'est emparé de la nation. Un coup d'État de tous les jours. La Constitution, ce chiffon de papier qui porte la signature de 18 millions de Français, de quelle main impatiente le général de Gaulle n'arrêtera-t-il pas de la froisser ? D'abord, il s'emparera corps et biens du pouvoir exécutif et réduira le gouvernement à la fonction d'un agent subalterne. Ensuite, il isolera le Parlement dans un ghetto d'interdits et lui ôtera les trois quarts de sa compétence législative. Il lui arrachera la quasi-totalité de sa compétence constitutionnelle. Et, pour achever l'ouvrage, il le livrera aux risées d'une propagande totalitaire en faisant moquer ses sursauts impuissants. Enfin, il se débarrassera des derniers contrôles importants qui risquaient de gêner sa marche vers l'absolutisme. Conseil constitutionnel qu'une poignée d'avoine fera rentrer à l'écurie. Conseil d'État qu'on musellera. Magistrature qu'on évincera. Alors, ne restera debout, face au peuple abusé, qu'un monarque, entouré de ses corps domestiques.
Alors, à ce moment-là, dans les années 60, le Parti Socialiste, c'est pas grand-chose. En 1969, Gaston Defferre, qui était le candidat à la présidentielle, n'a pas dépassé 5%
très largement distancé par le candidat communiste Jacques Duclos. Or, Mitterrand va redresser, on peut le dire, grâce à son énergie, à son sens de la stratégie. Il a l'audace de penser, à partir de ce moment-là, qu'il faut faire l'alliance avec le Parti communiste. Et grâce à son action, je dirais à son habileté, à son réseau d'influence, il parvient à se faire choisir, aussi bien par les communistes que par les socialistes et les radicaux, comme le candidat unique de la gauche.
Française, Française.
Campagne électorale de 1965.
Que soient d'abord remerciés celles et ceux d'entre vous qui, en m'accordant leur suffrage, ont permis aux candidats de la gauche d'être aujourd'hui le candidat de tous les républicains. Je mesure l'ampleur et la difficulté de ma tâche, mais j'en ressens aussi profondément l'honneur. La mission de la gauche, parce qu'elle m'a fait confiance le 5 décembre, est maintenant d'offrir à tous les Français les chances de la démocratie. Je vous entretiendrai la semaine prochaine des options et des choix fondamentaux qui commanderont mon attitude si je suis élu président de la République.
'65 se passe assez bien puisque De Gaulle est mis en ballotage par Jean Le Canuet et par Mitterrand. C'est un début, ça l'encourage, et il va continuer dans cette perspective d'union de la gauche. Ça prendra du temps. N'oublions pas que arrivent les journées de mai 68 qui vont retarder l'échéance. Mais à ce moment-là, Mitterrand n'est pas au Parti Socialiste. Et il va entrer au Parti Socialiste en 1971, au congrès d'Épinay, et il s'impose comme le vrai leader, d'abord du Parti Socialiste, ensuite de la gauche.
Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi.
Et il devient effectivement plus socialiste que beaucoup de socialistes.
Frédéric Savicky, professeur de sciences politiques.
Puisqu'il va jusqu'à déclarer, fameuse déclaration, que celui qui ne croit pas en la rupture avec le capitalisme ne peut pas être membre du Parti Socialiste, qui évidemment, dans sa bouche, sonne très très bizarrement. Et sa conviction à l'époque n'est pas remise en cause, mais on sent bien, il écrit un ouvrage d'entretien avec Alain Duhamel à ce moment-là, que quand on le relit aujourd'hui, surprend effectivement par la virulence des propos, mais on voit bien qu'il a tiré tout cela de ce qui s'était passé pendant les grèves de 68 et que c'est aussi par tactique qu'il devient socialiste. Mais je doute que François Mitterrand ait jamais lu, alors pas seulement les œuvres de Marx, mais aussi les grands opus ou les grands auteurs qui constituaient la littérature socialiste ou la bibliothèque socialiste.
Nous sommes solidaires, tous, et nous devrons le rester, quitte à régler au sein du parti les tendances et les choix nécessaires.
Comment François Mitterrand s'inscrit dans l'histoire du socialisme ? C'est une bonne question et à laquelle il n'est pas facile de répondre.
Christophe Prochasson, historien.
Ce n'est pas tant parce que lorsqu'il était jeune, il n'était pas socialiste, parce qu'au fond, d'autres grandes figures du socialisme français ne sont pas nées socialistes, mais le sont devenues, si vous me permettez cette formule. Prenons le cas de Jaurès, qui n'a pas été tout de suite socialiste. Non, dans le cas de Mitterrand, en effet, il y a vraiment un basculement. C'est tout de même un jeune intellectuel qui est très 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 loin du socialisme dans les années 30 et qui, d'une certaine façon, n'a jamais, à mon avis, eu la fibre socialiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas héritier de cette histoire. Donc, il parle le socialisme. Il le parle parce que son intuition politique lui fait penser à juste titre que la gauche peut gagner le pouvoir. Il avait été aussi en proximité, voire en familiarité avec les socialistes de la 4e République. Il avait pu croiser des figures pendant les années antérieures aussi du socialisme français. Donc c'est un monde qu'il connaît. Mais je ne suis pas sûr qu'il incarne, lui comme personne, un quelconque courant du socialisme français. Tout cela reste très extérieur à lui, et que ce qu'il a vu surtout, c'est le mouvement de l'histoire, et un mouvement de l'histoire dans lequel il s'est inscrit. Il a pris le train.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Donc, coup de maître. Il l'emporte à Épinay et presque immédiatement il devient le premier secrétaire du parti. Et il va réussir à unir en sa faveur, d'une part, les grandes fédérations socialistes du Nord, Morois, des Bouches-du-Rhône, de Fer, avec l'extrême gauche du CRS, qui est à ce moment-là guidée par Jean-Pierre Chevènement, qui se déclare marxiste. Marxiste pur et dur. Alors que Defer, jusqu'à présent, avait fait sa carrière à Marseille, notamment, avec une alliance, avec le centre, avec le centre droit, etc. Et dès l'année suivante, en 72, il va signer avec Georges Marchais et avec le Parti radical un programme de gouvernement.
Alors, le Parti communiste, de son côté, a saisi bien volontiers la main tendue par Mitterrand, parce qu'il était, en quelque sorte, isolé dans le champ politique, et il pensait, effectivement, que le Parti communiste conserverait très largement le leadership, compte tenu de sa puissance militante, de son implantation, notamment dans le monde ouvrier. Et, évidemment, à la grande surprise du PC, cette stratégie va lui nuire, au point qu'il va être amené après les élections municipales de 77 à la rompre, hein, pour s'engager dans une politique relativement solitaire, mais il sera trop tard. Le mal est fait d'une certaine façon, puisque c'est le PC qui apparaîtra comme le diviseur, et non pas le Parti Socialiste.
Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love the iron rose.
Et c'est alors que Mitterrand là, joue une carte vraiment de grand tacticien. C'est que, au lieu de dire « les ponts sont coupés », non, il dit « je reste fidèle au programme commun ». Et je dirais que cette rupture a été bénéfique aussi pour une autre raison. C'est que pour gagner dans cette France de ces années-là, il fallait que le candidat de gauche attire à lui une partie de l'électorat du centre. Et à partir du moment où il y a rupture entre les socialistes et les communistes, cela rassure ces électeurs centristes, démocrates, chrétiens, etc. Mitterrand n'est pas à la merci des communistes. De plus, aux élections législatives de 78, pour la première fois législative, le Parti Socialiste était placé devant le Parti Communiste.
Le Parti Socialiste, premier parti de France, vous offre la meilleure chance de sortir de la situation actuelle.
Campagne pour les élections législatives de 1978.
Parce qu'il est fidèle à ses engagements, fidèle à l'union de la gauche, fidèle au programme commun, et parce qu'il refuse la surenchère à laquelle l'invitent ses partenaires communistes. parce qu'il veut et parce qu'il peut mettre l'imagination au pouvoir. Le Parti socialiste porte les espérances de millions de Français. En rejoignant son combat, en votant pour son candidat, vous vous donnez les moyens d'améliorer la vie, de la changer et d'élever l'image de la France dans le monde. Le socialisme est une idée qui fait son chemin. Je vous invite à le tracer avec nous.
Il se trouve que cette rupture de l'Union de la gauche a quand même un premier effet dramatique, c'est que le Parti socialiste et le Parti communiste perdent les élections législatives de 78. Et donc, au moment de cette défaite législative, François Mitterrand et la majorité qui le rassemble est évidemment ébranlée. Et c'est là que Michel Rocard surgit, en quelque sorte, comme un challenger potentiel. Et à ce moment-là, évidemment, Michel Rocard dénonce l'échec de la stratégie mitterrandienne ou mitterrandiste, montrant clairement que c'est plutôt vers le centre-gauche et vers le centre qu'il faut plutôt se diriger pour réussir à vaincre. Et dans ce combat et ce défi que lui lance Michel Rocard, qui se traduira par un congrès au couteau, entre guillemets, évidemment, en 1979 à Metz, eh bien, François Mitterrand est poussé encore plus vers sa gauche, parce qu'il n'a comme allié dans ce combat que le CRS, qui est l'aile gauche du Parti Socialiste de l'époque, incarné par Jean-Pierre Chevènement. Et la ligne de Chevènement est clairement une ligne, effectivement, qui passe par l'Union de la gauche.
C'est une histoire de frères ennemis. Mitterrand n'aime pas Rocard. Je ne dirais pas que Rocard n'aime pas Mitterrand. Qu'est-ce que Mitterrand n'aimait pas chez Rocard? C'est une question de personnalité. Encore une fois, les idées, pour Mitterrand, c'est secondaire. L'important, c'est l'amitié, l'affection et une certaine forme de culture que n'a pas Rocard. Rocard, c'est un énarque, un économiste, un ancien inspecteur des finances. C'est quelqu'un qui a un langage d'expert, souvent incompréhensible pour Mitterrand et pour beaucoup d'autres. Et puis Rocard représente une certaine forme d'opposition à la politique de Mitterrand. C'est évidemment la thématique de la deuxième gauche, qui se méfie de l'étatisme, qui prône au contraire des initiatives décentralisées et dont le maître mot pendant longtemps était l'autogestion.
Fondamentalement, on dirait que la deuxième gauche a une matrice qui, évidemment, puise ses racines beaucoup dans les milieux chrétiens de gauche, auxquels, d'ailleurs, la CFDT est directement rattachée, puisque c'était une scission en 64 de la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Donc, il y a cette matrice qui s'ancre aussi dans le milieu associatif et qui a évidemment contribué à faire ce que le Parti Socialiste était dans les années 70 et par la suite, puisque la force effectivement du Parti d'Épinay, c'est pas simplement d'avoir fait l'union avec le Parti communiste, ça a été aussi de ramener ou récupérer toute une fraction du monde militant et électoral chrétien de gauche qui, jusqu'alors, honnissait le Parti socialiste, qui le lui rendait bien, enfin je parle là de la SFIO, notamment parce que sur les questions de la laïcité, sur les questions à l'époque de l'école et de la liberté de choix de l'école, eh bien, il y avait évidemment une partition très très forte au sein de la gauche qui a disparu et que le PS a pu très bien incarner, ce qui explique que le Parti socialiste ait pu se développer notamment dans l'ouest de la France, en Bretagne, dans les Pays de Loire, de façon tout à fait spectaculaire hein, dans les années 1970 et jusqu'à aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était plutôt la démocratie chrétienne qui, évidemment, était le parti de dominant et de référence dans ces régions. Donc, on peut dire que le Parti socialiste est un parti qui devient un parti social-chrétien, comme diraient nos amis belges, dans les années 70. Et évidemment, c'est un des clivages sur lequel François Mitterrand va jouer aussi pour se démarquer du rocardisme.
Cette rivalité, elle était à la fois personnelle, elle se faisait aussi sur le plan idéologique et stratégique. Stratégique parce que François Mitterrand voulait, malgré la division avec le Parti communiste, rappeler qu'il était attaché à l'union de la gauche, quand Michel Rocard laissait penser qu'il y avait une possibilité d'une autre alliance un jour. Que celle avec le Parti communiste. Elle était idéologique au sens où François Mitterrand, peut-être aussi pour se distinguer de Michel Rocard, faisait davantage appel à l'État pour transformer la société, quand Michel Rocard, souvent en lien avec la CFDT ou certains mouvements associatifs, laissait penser que c'était davantage par la négociation, la concertation, dans une formule plus social-démocrate d'ailleurs, que les changements pouvaient s'opérer.
De toute façon, il y a une très grande ambivalence, n'est-ce pas, dans le socialisme français, c'est que ils ont une doctrine de la lutte des classes, une doctrine inspirée par Marx, officiellement, non seulement à Épinay, mais déjà dès le début, en 1905, et puis encore en 1945-46, quand Guy Mollet prend le pouvoir. Et d'un autre côté, ils pratiquent, quand ils sont au pouvoir, on pourrait dire, une pratique réformiste, social-démocrate. C'est déjà une ambivalence qui n'est pas celle de Mitterrand, mais qu'il assume lui-même. Et au fond, il n'est pas porté à vouloir, comme le disait en Allemagne Édouard Bernstein à la fin du 19e siècle, mais aussi Michel Rocard, dans ces années-là, il faut accorder les mots et les actes. Mitterrand, lui, non. Il dit « je suis socialiste, je le resterai jusqu'à la fin de ma vie », quitte à ne pas définir ce que c'est que son socialisme.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.
C'est un spiritualiste, Mitterrand.
Jacques Julliard, historien et journaliste.
C'est un homme qui pense que les forces de l'esprit sont les vrais moteurs de la société. Donc il n'est pas du tout marxiste par la méthode. Il n'est pas non plus pour autant que ce soit marxiste, pour la dictature du prolétariat. Ce qu'il accepte, encore une fois, c'est ce qui est entre les deux. C'est-à-dire les conquêtes sociales pour les plus modestes, et ça je crois qu'il s'est rallié à cela complètement. Il est devenu socialiste et social-démocrate au fur et à mesure qu'il prenait des responsabilités à l'intérieur du pays. Et quand il a été à la tête de la gauche, d'une certaine manière, il s'est dit, il faut bien que je les suive, puisque je suis leur chef. Je pense qu'il n'y a pas de doctrine.
Il dit, mais vous savez, moi j'ai toujours été socialiste, j'ai voté toutes les lois de la SFIO. Bon.
Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, ancien membre du Parti Socialiste.
Qu'est-ce que le socialisme à son époque? Eh ben, la SFIO et le Parti Communiste, point. Il y avait une dispute terrible au sein du Parti Socialiste, entre tous ceux qui s'étaient regroupés sur l'idée que Michel Rocard était la bonne idée et ceux qui s'étaient regroupés sur François Mitterrand. Et évidemment, dans les deux cas, il y avait une stratégie politique à l'œuvre. Mais disons que Michel Rocard s'était fourré dans une impasse en disant « je ne serai pas candidat contre François Mitterrand ». Peut-être qu'il aurait fallu inventer des primaires, mais ça n'existait pas à l'époque. Et donc, puisque François Mitterrand était candidat, l'affaire était dite et Rocard, d'une manière très très forte finalement, et psychologiquement et politiquement, ne s'est pas dédié.
Me voici donc, par votre choix, le candidat socialiste à l'élection présidentielle de 1981. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je la reçois comme un honneur. Il n'est pas d'honneur dans la facilité. Et comme le témoignage fraternel d'un parti rassemblé. Chacun de nous y a sa place. Et au premier rang, ceux qui, par la constance de leur action et la richesse de leur pensée, ont fait du socialisme ce qu'il est et qui assureront demain sa marche en avant.
Et donc, nous avions pour candidat François Mitterrand. Et inutile de vous dire que c'était pas dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est une histoire recomposée. On était terriblement seuls. Alors, en plus, on avait l'air un peu ballot parce que on s'était imposé face aux rocardiens sur l'idée qu'on voulait l'union de la gauche, c'est-à-dire le programme commun, et les communistes voulaient pas de nous. Et disaient pique-pente de nous, ils avaient eux-mêmes une candidature. Donc, disons que l'ambiance était morose. Et puis, alors vous savez, vous n'êtes pas entouré de cette espèce de d'allant qu'il peut y avoir dans une campagne qui commence. Et nos camarades rocardiens sentaient tous obligés d'écrire des textes définitifs. François Mitterrand a pris sa responsabilité devant l'histoire. Genre, il va se prendre une pelle et ce sera de sa faute. Bref.
Il se présente à l'élection présidentielle, évidemment, avec un candidat communiste, Georges Marchais, en face de lui. Et évidemment, il passe devant. Et Georges Marchais n'a d'autre choix, évidemment, que d'appeler à voter pour François Mitterrand, même si, en pratique, on le sait que les communistes, enfin, en tout cas la direction du Parti communiste, n'a sûrement pas voté pour lui dans les urnes. Et donc, il l'emporte. Mais est-ce que François Mitterrand, après la rupture du programme commun, aurait nécessairement gardé la même ligne si Michel Rocard n'avait pas été à ce point menaçant, parce que Michel Rocard était très, consacré par les sondages, il avait le soutien de toute la deuxième gauche, Nevader comme Nouvel Observateur était complètement voué à lui, et François Mitterrand l'emporte à la surprise générale.
Je remercie du fond du cœur.
Entre deux tours des élections présidentielles, 26 avril 1981.
Les 7 millions et davantage encore de Françaises et de Français qui m'ont fait confiance en ce jour important pour la France et pour la République. Mais le combat continue. Il nous faut maintenant rassembler dans un grand élan national celles et ceux qui ont choisi le changement.
Alors, une bonne partie des membres du Parti socialiste dans les années 70 ne vient pas de la matrice traditionnelle qui était celle de la SFIO, mais néanmoins il y a quand même une partie de cette matrice SFIO qui demeure et elle est incarnée notamment par ce que moi j'ai appelé le milieu laïque, c'est-à-dire d'abord le syndicat enseignant du SNIP et EGC, une partie aussi des syndicats enseignants dans le secondaire du SNES, c'est la Fédération des parents d'élèves, FCPE, ce sont les amicales laïques regroupées dans les fédérations des œuvres laïques, et puis une autre partie qui correspond aussi à des enseignants qui ont été recrutés en masse, jeunes, à la fin des années 60 et toutes les années 70, c'est le moment où on va avoir une augmentation très importante de l'accès à l'enseignement secondaire dans les collèges et lycées, donc il y a véritablement un boom de cette profession. Ça correspond aussi évidemment à l'augmentation du nombre de diplômés dans l'université. On est passé de 200 000 à peu près étudiants à la fin des années 50 à 1 million au début des années 70. Si on prend quelqu'un comme Jean-Marc Ayrault par exemple, c'est un enseignant qui vient d'ailleurs de la matrice chrétienne, qui a commencé par militer dans une session de quartier à Saint-Herblain dans la banlieue de Nantes et qui est devenu très très vite élu local. Mais son parcours correspond assez bien à celui de beaucoup de ces nouveaux nouveaux jeunes élus socialistes, qui sont pas des 68ards gauchistes, il y en a très peu en fait, mais qui sont plutôt des gens qui, dans la mouvance de 68, se caractérisent par une pensée critique, anticapitaliste, mais aussi anti-société de consommation, attentifs à de l'amélioration du cadre de vie, des conditions de logement, du développement des services publics dans les nouveaux quartiers. Et qui vont contribuer à faire en sorte que ce Parti socialiste va pas simplement gagner le pouvoir national, mais va gagner beaucoup de positions locales et du coup de nourrir par capillarité, si vous voulez, le parti par des ancrages sociaux multiples. Et pour cette génération-là, effectivement, François Mitterrand apparaît comme une espèce de père tutélaire, mais qui a permis justement ses victoires. Et c'est là aussi que François Mitterrand puisera, dans cette jeune garde, on pourrait dire, pas mal de soutien.
Monsieur le Président de la République.
Roger Frey, président du Conseil constitutionnel, proclame les résultats officiels de l'élection présidentielle, investissant ainsi officiellement François Mitterrand, 21e président de la République.
Il y a le 10 mai et un peu plus tard, il y a la cérémonie d'investiture qui a été un moment très important aussi et qui est marquée par la mobilisation, on peut dire, par François Mitterrand, de beaucoup de symboles socialistes, de s'inscrire véritablement dans une histoire socialiste. Alors on sait maintenant que c'est aussi une question qui est importante de savoir quel socialiste était François Mitterrand.
François Mitterrand, quand il s'installe à l'Élysée et qu'il va donc faire cette cérémonie au Panthéon, est animé par deux objectifs. Le premier, c'est de s'inscrire dans une histoire qui n'est pas simplement celle du socialisme, qui est celle de la République. Et il est animé par un deuxième sentiment et une volonté qui est d'être le président de tous les Français, montrer qu'il est habité par une conscience, par des convictions fortes, mais qu'elles sont au service maintenant d'une action qui va se faire au bénéfice de tous, sans exclure quiconque. D'où cette multiplication de symboles, où il est à la fois celui qui vient déposer des roses sur la plaque de Jaurès, sur aussi Schœlcher, mais aussi celui qui va saluer des républicains qui n'ont pas toujours été des femmes ou des hommes de gauche, enfin en l'occurrence des hommes, parce qu'au Panthéon, c'était plutôt ce que l'on trouvait, et qui vont montrer qu'il est d'abord un républicain.
En ce jour où je prends possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferments de notre peuple, qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès, autrement que par de brèves et glorieuses fractures de notre société.
Alors, naturellement, il y a cette autre qualité chez lui, la qualité de la communication, faire comprendre aux Français que c'en est fini du pouvoir de la droite, que le peuple est désormais présent à l'Élysée et que c'est lui qui gouverne. Et par conséquent, cela doit s'exprimer par des rites, par des scènes populaires, par une solennité qui annonce la bonne nouvelle. La France va changer. Le peuple a le pouvoir.
À toutes les Françaises et à tous les Français, au-delà de cette salle et de ce palais, je dis ayons confiance et foi dans l'avenir. Vive la République, vive la France.
Il commence en effet à pleuvoir.
C'est vrai, il pleut, mais ici on dirait que personne ne s'en aperçoit. Au grand rendez-vous de la contrescarpe, il y a des cheveux mouillés, mais ça n'a aucune importance. Il y a des roses fanées dans des poches de jeans ruisselantes, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il y a aussi de la joie, un orchestre qui pourrait être brésilien ou antillais. Allez savoir, puisque tout le monde danse et chante en chœur, il y a tant d'originalité, tant de jeunesse et de sourire que brésilien ou antillais, finalement, peu importe. L'important, c'est que les fusées de toutes les couleurs s'échappent de la foule comme les ballons en forme de cœur. Il y en a plus que des parapluies. Ici, on est monté sur les baraques avec des drapeaux rouges ou bien bleu-blanc-rouge. Plus fort on tape du pied, plus fort est le bruit, mieux c'est. Dans les bistrots, on fait la queue au téléphone. Tu viens chérie, je suis à la contrescarpe. Ça restera le mot de passe du 21 mai 1981.
La gauche est une espérance, parce que la gauche va, pour celles et ceux qui la portent au pouvoir, bien au-delà des programmes. Parce que l'on veut, avec la gauche, changer tout, pas changer la vie, changer toutes les vies, une autre vie, dans une autre société, peut-être même dans une autre Europe et un autre monde.
Est-ce que vous aviez, après cette euphorie, vous avez été saisi aussi par une forme d'effroi, d'angoisse, parce que la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis très longtemps, jamais
non,
sur la 5e.
Non, on savait rien. Moi, j'avais 30 ans, on s'en fichait complètement de ce que la gauche n'avait pas fait avant, on s'en foutait, tout ça, c'était des vieux, ça tenait pas debout.
Il n'y a pas l'idée de « est-ce qu'on va savoir faire ?»
Ah ben, en tout cas, pas chez moi. Peut-être que les élèves des grandes écoles ont été tétanisés à propos de l'écart entre ce qu'on leur avait appris et qu'ils avaient lu dans leurs bouquins et puis ce qui était écrit dans le programme commun. Mais nous, on était un certain nombre à penser que le programme commun, bon, c'était bien, mais c'était un point de départ, quoi, qu'on allait faire beaucoup plus que tout ça.
Au fond, pensons-y. Mitterrand arrive au pouvoir en 81 avec une mythologie politique du socialisme qui est en gros celle du Front populaire. Hein. Il a son l'excis corporel de Léon Blum, le chapeau, l'écharpe, d'une certaine façon le phrasé distingué, le goût pour la culture. Voilà. Il a cet imaginaire-là et c'est l'imaginaire de sa jeunesse, ne l'oublions pas. Et le programme même avec lequel il emporte la rupture avec le capitalisme, l'alliance avec les communistes, tout un discours plein d'un élan révolutionnaire, de transformation sociale, tout ça arrive au pouvoir précisément au moment où tout ça est en train de se déglinguer. Et tout ça se déglingue parce que dans le monde, le libéralisme avance à pas de géant et s'impose qui aux États-Unis, qui en Angleterre et qui dans d'autres pays européens, même si la gauche gagne à ce moment-là dans plusieurs pays européens. Mais cette idéologie anti-socialiste, elle s'impose au fond avec force. C'est les derniers feux de 68, ne l'oublions pas, hein, les années 70, et ce basculement qui se produit au milieu des années 75-76, enfin au milieu des années 70, vers 75-76, où on est en train de liquider l'héritage de 68. Hein. Et à ce moment-là, il faut aussi avoir en tête la publication de l'archipel du Goulag, la montée de la nouvelle philosophie, la défaite posthume de Sartre contre Aron. Enfin, on voit bien que se met en place un nouveau climat intellectuel, de nouvelles références qui avaient été écrasé, il faut bien le dire, ou écarté dans les années 60 et 70, au profit donc d'autres références et d'une autre idéologie, celle du libéralisme.
Est-ce que la faute de François Mitterrand, c'est pas d'avoir entretenu l'ambiguïté, d'avoir tenu le discours de la rupture quand il adoptait un virage libéral ? On lui a beaucoup reproché, en référence au changement de doctrine de 1959 du SPD, le parti de gauche allemand, de ne pas avoir fait son Bad Godesberg. Quel est votre avis là-dessus ?
Oui, cette question, elle est revenu finalement dès la création du Parti Socialiste en 1971. Dès lors que le Parti Socialiste faisait le choix de l'union de la gauche, François Mitterrand considérait que le congrès de Bad Godesberg serait apparu, si on voulait le transcrire dans la vie politique française, comme une incongruité, puisque c'était l'affirmation du socialisme qui comptait. Pourquoi ça comptait pour François Mitterrand ? Si François Mitterrand avait dit finalement je suis social-démocrate, je ne suis pas socialiste, il aurait offert au Parti communiste l'occasion, même si c'était tout à fait artificiel, de dire vous voyez bien, la trahison est déjà là, et le Parti socialiste dérive et veut finalement gouverner avec le centre. Comme François Mitterrand voulait garder le cap de la stratégie du monde de la gauche, il ne voulait rien concéder, y compris en termes de vocabulaire. Ensuite, lorsque François Mitterrand devient président de la République, nous sommes déjà devenus un parti social-démocrate, mais c'est vrai que l'histoire du changer le nom n'est pas venue à l'esprit, et puis c'était la priorité. Mais en réalité, il était déjà devenu un parti social-démocrate. Mais moi-même, quand je suis devenu président de la République, je me souviens des conférences de presse que je tenais, il y avait toujours un journaliste qui me disait « Alors, dites-nous que vous êtes devenu social-démocrate, mais je suis socialiste. » Bien sûr que si vous me demandez ce qu'est le socialisme, à bien des égards, c'est la social-démocratie. Mais en France, ça s'appelle le socialisme.
Est-ce que vous diriez qu'il existe quelque chose qu'on pourrait appeler le mitterrandisme ?
Je ne pense pas qu'il y ait un socialisme mitterrandisme, ou du moins que il y ait chez Mitterrand une pensée théorique qui ait imprégné le socialisme. Il y a en revanche une pratique du pouvoir, certaine. Et peut-être que s'il a imprégné sa marque, c'est en inscrivant le socialisme durablement dans l'exercice du pouvoir. C'est ça qu'il a apporté au socialisme, de mon point de vue. Ce qui n'avait jamais été le cas. Hein. Si on remonte très très loin, c'est-à-dire peut-être à la première expérience du pouvoir qu'ont les socialistes, alors je mets à l'écart évidemment les moments révolutionnaires de 48 ou de la Commune, mais je pense premier moment vraiment à la toute fin du 19e avec l'expérience dite Millerand, d'ailleurs avec des consonances amusantes avec François Mitterrand, où pour la première fois en effet un socialiste accède au pouvoir. Bon, c'est toujours très bref, hein. Ce moment-là, il y a la guerre de 14 où c'est un peu plus long, mais dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le Front populaire, c'est un peu plus d'un an. Et puis il y a les moments, mais dans des circonstances aussi particulières, de la libération. Donc tout cela est bref. Et pour la première fois, Mitterrand installe le socialisme au pouvoir. C'est là la marque, sa marque, en quelque sorte. Mais ça ne va pas au-delà. Et c'est une marque importante, mais qui n'a pas été théorisée, qui n'a pas été pensée. Et la marque est donc ambivalente d'une certaine façon. Et le fait est que lorsque le socialisme se retrouve sans Mitterrand, il est un peu tout nu. Vous voyez ? Donc c'est vraiment un homme qui rencontre le socialisme et le porte au pouvoir. C'est cette rencontre-là qui est sans doute d'ailleurs un mystère, une énigme historique.
C'est la rencontre entre deux séries qui auraient pu ne pas se rencontrer et qui se rencontrent sous le sceau du hasard ou alors d'un besoin réciproque. Lorsque Mitterrand rencontre la gauche est à la recherche d'un chef et le chef est à la recherche d'un électorat ou d'un camp. Donc C'est vrai que c'est une rencontre.
Vous diriez, comme Régis Debray, que François Mitterrand était un socialiste d'occasion ?
C'est un socialiste d'occasion dans la mesure où, je dirais plutôt d'opportunité que d'occasion, dans la mesure où il s'est saisi d'un moment historique pour accéder au pouvoir. C'est ça que je dirais. Pour le reste, je pense que son socialisme est un peu cosmétique.
L'occasion, ça a été pour lui de voir que le socialisme était en jachère quand il était lui-même disponible. Comment cette grande idée, cette grande famille politique, ce grand parti avait pu tomber aussi bas ? Et donc il s'est dit, j'aurais pu peut-être rester ce que j'étais, un homme seul, parce que ça a longtemps été sa façon de faire de la politique, avec un petit parti et des compagnons ou des camarades qui m'entouraient. Et puis là, il voit qu'il y a un vide, et il le remplit, et l'occasion ne fait pas que le larron, l'occasion fait l'histoire.
C'était François Mitterrand, un mythe français. Un socialiste à l'Élysée. Merci à Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Christophe Prochasson, Michel Vinocq, Philippe Short, Frédéric Savicky, Jacques Julliard. Archivina, Clary Monac et Manuela Dubessy. Prise de son, Frédéric Kérou, Yves Lehor, Olivia Branger, Jérémy Thuil, Philippe Mercher et Lucas Derode. Mixage, Éric Boisset. Collaboration et lecture, Elsa Théry. Un documentaire de Raphaël Bourgois, réalisé par Somanina. Mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
choses en moi, mon cœur qui bat, la 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 la